Bienvenue au deuxième numéro d'Il y a une vie après normale. Cette semaine, nous avons la chance de diffuser une interview du très dynamique et chaleureux Bernard Bigot. Bernard Bigot a intégré l'ENS en 1969. Ensuite, il a été entre autres professeur et chercheur en physique, directeur de l'ENS et aujourd'hui, il est l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. C'est de son expérience et de ses souvenirs dont il nous a fait part lorsqu'on l'a rencontré. Voici notre discussion.
Bonjour monsieur. Quelles
Bonjour.
Sont pour vous les grandes lignes de votre parcours? Comment devient-on directeur général du CEA? Est-ce que vous pouvez...
On le devient par hasard. Rien ne m'y prédisposait véritablement. Mon parcours, il est très simple. Donc, je suis rentré à l'école normale. J'ai eu la chance de pouvoir passer une licence, une maîtrise. À l'époque, c'était à l'université d'Orsay, puisqu'on était à Saint-Cloud. Donc, dans le domaine de la chimie physique, et puis j'ai rencontré des professeurs absolument extraordinaires. Donc, j'ai fait une thèse de troisième cycle à la rue d'Ulm, et puis je suis ensuite j'ai fait mon agrégation et je suis parti au Pérou comme professeur visitant, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le volontaire du service national actif. Quand je suis revenu, il y avait un projet de relocalisation de l'école normale supérieure. Donc, à Lyon. Donc, je me suis inscrit dans cette démarche. Donc, j'ai préparé une thèse qui pouvait être en adéquation avec ce qui intéressait Lyon. J'ai fait cette thèse à Paris 6, puis je suis parti aux États-Unis, à nouveau comme visiting professeur. Et quand je suis revenu, on m'a recruté effectivement comme un jeune professeur. Pour aller à Lyon. Voilà, j'ai été à Lyon, j'ai été nommé directeur adjoint chargé des études, donc c'était en 1982, je crois. Et puis voilà, cette superbe aventure de l'École normale supérieure de Lyon, je l'ai accompagnée jusqu'au moment où, en 1993, le ministre qui était à l'époque chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche m'a un jour appelé en me demandant si je voulais bien... Donc, prendre une responsabilité au sein du ministère. Je ne connaissais pas ce ministre. Le ministre s'appelle aujourd'hui François Fillon. Donc, j'ai été pendant 5 ans au ministère, avec d'ailleurs des ministres successifs, tout en continuant à travailler à l'école normale, notamment au laboratoire de chimie théorique et à l'Institut de recherche sur la catalyse où j'effectue une partie de mes recherches. Et puis, voilà, j'ai 5 ans de travail tout à fait passionnant. En 1998, j'ai souhaité mettre fin à mes fonctions. Je suis retourné à l'école. J'espérais bien pouvoir travailler calmement. Disons, la malchance a voulu qu'on me nomme à nouveau directeur adjoint chargé de la recherche, cette fois-ci. Et puis, directeur du laboratoire de l'Institut de recherche sur la catalyse. Et puis, est venue la possibilité de postuler à la direction de l'École normale supérieure, puisque Jean Giraud prenait sa retraite. Donc, le ministre de l'époque m'a sollicité pour que je prenne cette responsabilité, ce que j'ai fait. Et puis, en 2002, on m'a appelé à nouveau pour devenir directeur de cabinet de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et des nouvelles technologies, de la recherche et des nouvelles technologies, Mme Claudie Aigneret. Donc, j'ai fait cela avec beaucoup de plaisir, je dois le dire, très intéressant. Et puis, le hasard a voulu que, dans cette responsabilité, je préparais la nomination par le président de la République et le Premier ministre du haut commissaire à l'énergie atomique, qui était une fonction dont je pourrais vous expliquer exactement le rôle. Et puis, quelques jours avant qu'il soit nommé, la personne qui était pressentie, a renoncé. Et à l'époque, le président de la République m'a joint, donc impromptu, et m'a dit, voilà, on me dit que c'est vous qui sans doute êtes le plus qualifié pour être haut commissaire, alors vous allez le devenir. Je lui ai répondu gentiment que voilà, j'avais encore beaucoup à faire comme directeur de cabinet. J'étais très, très heureux de ce que je faisais. Et il m'a répondu dans une boutade, il y a 35 directeurs de cabinet, il n'y a qu'un haut commissaire, je vous demande d'être haut commissaire. Voilà. Et dans ces conditions-là, mieux vaut ne pas refuser, je crois. Voilà. Donc j'ai été haut commissaire pendant 6 ans.
Oui.
Et là, encore une fois, il fallait donc nommer un administrateur général. C'est comme ça que s'appelle le directeur général du CEA. Donc j'ai préparé tout un ensemble de candidatures et quelques jours avant la nomination, le président de la République, c'était pas le même, m'a dit que voilà, toutes les candidatures qu'il avait rencontrées, etc., ne lui convenaient pas et qu'il pensait que j'étais le bon candidat. Et j'ai accepté. Voilà, pour vous dire qu'on le devient par hasard, sans le rechercher, puisque toute cette histoire, à aucun moment je n'ai imaginé la construire. Ce sont les autres qui l'ont faite pour moi.
D'accord, très bien. Et donc, deuxième question, à quoi rêvez, à quoi rêviez-vous, Bernard Bigot, jeune normalien, quand vous étiez jeune normalien?
Ah, alors, j'étais passionné par la chimie. Et je rêvais de pouvoir faire une carrière de recherche, découvrir de nouveaux produits, de nouvelles molécules, contribuer au progrès des connaissances dans ce domaine. Voilà, et ce rêve, d'une certaine manière, il a pris corps, même s'il n'a pas été tout à fait aussi linéaire. Voilà.
D'accord. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de votre passage à l'ENS en tant qu'élève?
Oh, j'ai plein de bons souvenirs, beaucoup de bons souvenirs.
Une anecdote.
En tant que chimiste, il y avait une atmosphère formidable au laboratoire, donc avec les camarades de ma promotion. Mais je me souviens d'un souvenir. Traditionnellement, il y avait quelques facétieux et ils s'amusaient à jeter des éponges et que voilà, soudainement et humide bien évidemment, qu'il fallait récupérer. Et un jour, il y en a un qui, pour essayer de me surprendre, a acheté une brique. Voilà, et donc ça a été un peu surprenant, je dois dire. Et tout le monde a éclaté de rire parce que effectivement, j'ai quand même réussi à récupérer la brique, mais avec quelques difficultés.
D'accord. Qu'est-ce que vous a apporté votre passage à l'ENS en quelques mots, si vous y arrivez?
Oh, formidable. Je pense que si je suis ce que je suis, je le dois pour une large partie à l'ENS. Une rigueur intellectuelle, une envie du service public. Je veux dire, une fierté à servir, je dirais, dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Et puis, beaucoup d'ouverture. Avec des camarades qui étaient, pas seulement mon champ disciplinaire, que ce soit des historiens, des philosophes, des anglicistes ou des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. Donc c'est un espèce de creuset formidable où si vous prenez le temps, je crois que vous avez la possibilité d'apprendre énormément. Puis surtout, à l'époque, l'ENS, il y avait une excellente bibliothèque. Et pour moi, ça a été une source formidable d'ouverture sur le monde, sur les autres, sur l'histoire des sciences. Voilà. Donc, je crois que je dois beaucoup à l'École normale supérieure de Saint-Cloud.
Très bien. Venons-en à vos années d'enseignement. Était-ce une vocation ou la poursuite d'un cursus tout tracé en sortant de l'école, de l'ENS?
Non, une vocation, c'est difficile, mais j'ai toujours eu le goût donc d'enseigner, d'expliquer. Bon, d'abord, j'avais eu la chance d'avoir des professeurs formidables, que ce soit au lycée, que ce soit en classe préparatoire, que ce soit dans la période universitaire ou à l'école normale. Et donc, ça m'apparaît assez naturel, dans la mesure où je crois que j'avais quelques qualités pour pouvoir enseigner, de m'y consacrer, d'en faire retour, voilà. Donc, c'est très naturel, il n'y a pas de sujet là.
Et maintenant, en tant que chercheur reconnu, quelle importance avez-vous pu, tout au long de votre parcours, accorder à la pédagogie ou à la vulgarisation, à toutes ces problématiques-là?
Ah, pour moi, c'est essentiel. Je veux dire que lorsque l'on a la chance d'avoir appris quelque chose, la première responsabilité, c'est de le partager avec les autres. D'abord, ne serait-ce que de confronter votre compréhension et puis d'essayer d'éveiller les autres à ce que vous avez pu vous-même découvrir. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très profond et je suis très heureux d'avoir pu enseigner longtemps, y compris quand j'avais encore des responsabilités autres. Avoir la confrontation des étudiants, c'est peut-être la chance la plus grande que l'on peut avoir parce que ça vous remet en permanence en question, ça vous oblige d'approfondir vos propres réflexions. Non, c'est très gratifiant de mon point de vue.
Vous avez une formation de scientifique. Comment êtes-vous devenu un bon administrateur, un bon gestionnaire?
D'abord, je suis très content si vous dites que je suis un bon gestionnaire,
oui,
parce que c'est pas si simple que cela. Écoutez, c'est très naturel. Moi, je considère que...
Ça ne vous a pas manqué de ne pas avoir eu de formation dans cette discipline, si on peut appeler ça une
Non,
discipline?
si vous voulez, j'ai appris sur le tas, c'est vrai. Personnellement, dans ma vie personnelle, j'aime bien gérer les choses de manière organisée, structurée, fiable. On apprend. Alors, c'est vrai que parfois, j'ai appris en marchant. Hein, par exemple, le budget de l'État, un jour, j'ai été totalement immergé, je n'avais jamais connu cela, et je devais, par exemple, le défendre devant le ministre du budget, accompagnant mon propre ministre. Et c'est vrai qu'il y a tout un langage, une codification. Mais si moi, j'aime bien avoir les idées simples, donc comprendre simplement, essayer d'avoir l'architecture, et puis après, on apprend les détails, et puis vous n'êtes pas seul. La chance dans la vie, c'est que vous avez des gens avec qui vous travaillez, et si vous avez une bonne relation avec eux, bah, ils ne s'offusquent pas que vous ne sachiez pas tel ou tel code ou autre affaire. Voilà. Mais je pense que, et ça a été une idée que j'ai essayé de cultiver, je pense que les scientifiques, on devrait leur offrir aussi la chance d'avoir une formation complémentaire de base dans la gestion, le management, etc. Parce que la science aujourd'hui, l'enseignement supérieur, ça impose cela. Aujourd'hui, les universités sont autonomes. Bon, quand on gère le CEA, c'est 16 000 personnes, c'est 4 milliards de budget, des tas de problématiques, qu'elles soient juridiques, contractuelles, sociales, donc le droit du travail. Eh bien, si j'avais eu tout cela plus tôt, je pense que ça aurait été un peu plus facilitant. Mais j'ai eu toujours, dans les fonctions différentes qui ont été les miennes, la chance d'avoir des collaborateurs formidables, extrêmement ouverts, gentils, et qui, en quelques jours, m'apprenaient l'essentiel de ce que je devais savoir, et puis après, j'avançais tout seul. Voilà.
Vous arrivez au CEA, comment présenteriez-vous cette institution? Comment présenteriez-vous vos fonctions au sein de cette institution? Et quels en sont les grands enjeux aujourd'hui?
Alors, le CEA, c'est un formidable organisme. Hein. Donc, c'est un organisme qui a été créé en 1945 par le général de Gaulle, le 18 octobre, je veux dire, quelques mois à peine après sa prise de fonction, conscient que l'énergie nucléaire, ou plutôt les mécanismes nucléaires, étaient une chance formidable pour notre pays. Il a créé en disant, je veux que le CEA tire le meilleur parti de l'atome dans le domaine de la recherche. Il a commencé par la recherche, c'est très intéressant. L'industrie, la défense et la santé. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un grand organisme de recherche et développement essentiellement technologique. Il a une finalité, c'est créer de la valeur par l'innovation technologique, en s'appuyant sur un socle de recherche fondamentale puissant. Voilà. Cet organisme, il a des missions dans quatre grands domaines. La défense et la sécurité globale. Donc, c'est-à-dire, c'est le CEA qui conçoit, construit, élabore, recycle les armes de la dissuasion, assure la couverture mondiale. De ce qu'on appelle la surveillance des traités, c'est-à-dire il y a un réseau qui collecte des informations et qui garantit au chef de l'État qu'il n'y a pas de menace. Vous savez, la dissuasion, c'est effectivement faire comprendre à l'autre que si il portait atteinte à des intérêts que vous considérez comme vitaux, le bénéfice qu'il en recevrait serait sans commune mesure avec les dommages que vous pourriez lui faire subir. Donc c'est le jeu de la menace. Donc il faut identifier les gens qui sont susceptibles de vous menacer et pouvoir dialoguer avec eux pour les convaincre de votre détermination et du pouvoir que vous avez. Donc ça, c'est un grand pan. Y compris la prévention du terrorisme, toutes ces choses-là. Deuxième grand pan, c'est l'énergie, les énergies non carbonées, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Troisième pan, c'est les technologies de l'information et de la communication. Et le quatrième, les technologies de la santé. Et cela, comme je le dis, ça s'appuie sur un socle de recherche fondamentale dans le domaine de la chimie, de la physique, l'informatique, la biologie, de l'électronique, etc. C'est un organisme qui est pour moi formidable parce qu'il a, depuis la responsabilité de production des connaissances les plus fondamentales jusqu'à la production d'objets, de systèmes qui sont utiles à la société. Par exemple, dans cet petit appareil qui est là, mon téléphone portable, vous avez une puce. Cette puce, elle a été conçue par le CEA qui aujourd'hui, ces puces sont produites par Nokia, par Samsung, par IBM, par voilà. Donc, de la même façon, les écrans plats de vos télévisions, ben, c'est le CNEA qui les a créés. Le test donc, de détection de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dite de la vache folle, c'est le CEA qui l'a créé. Donc, c'est depuis la compréhension jusqu'à un produit qui est transféré après à une industrie.
Et pouvez-vous présenter les fonctions que vous avez exercées au sein de cette institution ?
Alors, j'ai été d'abord au commissaire. Alors, le CEA, il a été créé, donc, comme je le disais, par le général de Gaulle en 1945, avec la conception que la science et la technologie nucléaire est une chose trop sérieuse pour être mise dans les mains d'une seule personne. Donc, il a créé, d'un côté, ce qu'il appelle le haut commissaire à l'énergie atomique, qui est une personnalité totalement indépendante, normalement ce qu'on appelle donc une autorité scientifique, qui a vocation à pouvoir conseiller le président de la République et le gouvernement sur la politique scientifique que conduit le CEA et garantir de sa solidité et de sa robustesse, et en particulier donc sur le plan de la sécurité des biens et des personnes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, donc les technologies nucléaires, les programmes nucléaires que l'on va conduire font porter des risques donc à nos concitoyens et à l'environnement. C'est ça sa responsabilité. Il n'est pas sous la coupe de l'administrateur général. Il le conseille, il dialogue avec lui. Voilà. Et je trouve que cette idée est absolument superbe et remarquable. Comme vous savez, le premier donc des hauts commissaires, ça a été Joliot-Curie. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a l'administrateur général, donc qui est grosso modo le responsable, donc qui engage l'établissement dans les relations contractuelles, a l'autorité sur les personnes, gère le budget, donc conduit grosso modo la mise en œuvre de la politique voulue par le chef de l'État et le gouvernement de manière plus générale sur les conseils du haut-commissaire. Voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir occuper les deux fonctions. Ce qui n'était pas arrivé depuis 1945, puisque Joliot-Curie initialement a eu les deux fonctions. Et depuis, il n'y a jamais eu donc un haut commissaire qui a basculé comme donc administrateur général. Et réciproquement, voilà, j'ai d'une certaine manière la chance d'avoir visité les deux fonctions.
Très bien. Pourquoi avoir choisi de vous consacrer à l'énergie atomique plutôt qu'à un autre domaine ? C'est un domaine controversé. Vous, comment voyez-vous son avenir ? Et pourquoi, pour vous, le nucléaire civil, cette fois, est-il indispensable dans le mix énergétique du futur ?
Alors, pourquoi ? Je vous l'ai dit, il y a une large partie de hasard, même si, oui. En tant que chimiste, j'ai toujours été passionné par, on va dire, la politique énergétique. De mon point de vue, vous le savez, la chimie, c'est la science de la transformation. Pour transformer, il faut de l'énergie. Et donc, ma préoccupation était d'essayer de comprendre comment, à long terme, le monde, notre planète, notre société pourrait préserver l'énergie. Donc, si on retrace l'histoire de l'humanité, au début, c'était purement, entre guillemets, l'énergie solaire, hein, donc sous forme de transformation en biomasse par la photosynthèse que les habitants mangeaient, qu'on donnait à manger aux habitants, dont on faisait du feu avec, etc. C'était le vent, c'était... Bon, ça fonctionnait quand on était moins d'un milliard d'habitants sur la planète. Et puis quand on a basculé à maintenant 6,5 et qu'on va basculer à 9, il est clair que ce n'est pas une ressource suffisante. C'est comme ça qu'est née l'exploration du charbon, donc au début du 19e siècle, et puis après, effectivement, le pétrole, puis le gaz. Et on sait tous là que c'est appelé à s'épuiser, donc, puisque c'est un stockage intermédiaire, d'une certaine manière, de l'énergie solaire. Hein, bon. Et c'est non seulement appelé à s'épuiser, mais la consommation massive affecte profondément à la fois l'environnement et le fonctionnement de la planète. Donc, cette réflexion-là, je l'avais conduite de longue date. Et lorsqu'on m'a proposé de prendre des responsabilités, j'étais tout à fait confortable avec cela. Y compris parce que, quand j'étais directeur général de la recherche et de la technologie, en fait, j'étais administrateur du CEA. Hein, puisque vous administrez les grands organismes, le CEA, le CNRS, l'INRA, l'INRIA, etc. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème, de quelque manière que ce soit, avec l'énergie nucléaire. Ma réflexion, elle est la suivante. L'énergie solaire, c'est de l'énergie nucléaire. C'est la fusion. Voilà. l'énergie la plus durable, la plus concentrée, c'est l'énergie nucléaire. Nous ne pouvons pas, de mon point de vue, nous exonérer de l'énergie nucléaire à long terme. Donc, pour le moment, on utilise la séquence des combustibles fossiles, 85% à peu près aujourd'hui de la consommation mondiale de l'énergie, mais ça ne peut pas durer longtemps. Moi, je fais toujours cette réflexion. Aujourd'hui, on va dire, l'humanité organisée sociale est là à 7-8 000 ans. D'accord ? Même si, évidemment, l'homme est beaucoup plus ancien, si vous voulez, 7-8 000 ans. On doit offrir à nos descendants au moins 7-8 000 ans d'espérance de vie, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, là, ma conviction profonde, c'est que les carburants donc issus, enfin les combustibles fossiles, ne pourvoiront pas les besoins de l'humanité, à moins que l'humanité repasse en dessous du seuil du milliard et on reviendra. Voilà. Et donc, je me suis investi dans ce domaine et je considère véritablement, de manière extrêmement sincère, que l'énergie nucléaire est une énergie nécessaire. On pourrait souhaiter qu'elle ait moins de contraintes. Elle a des contraintes. Le fait, c'est qu'elle est un million de fois plus dense, plus concentrée que les combustibles fossiles. Donc, c'est clair que quand vous avez quelque chose qui est très concentré, si vous ne maîtrisez pas bien, évidemment, sa transformation, vous pouvez en subir des dommages. Donc, le premier sujet, c'est de maîtriser cette technologie complexe. Je pense qu'aujourd'hui, on a un retour d'expérience qui permet de le maîtriser. Puis, la deuxième, c'est la gestion des déchets, essentiellement. Mais je me suis beaucoup investi là-dedans et je pense qu'il y a une politique dans notre pays qui peut garantir donc à la fois d'avoir le bénéfice plein de cette énergie et en même temps maîtriser les risques ou je dirais l'impact des déchets de longue durée. Voilà la vision qui l'amène. Moi, je suis très confortable avec cela. Je considère que il y a des gens qui ont le nucléaire honteux. Il n'y a pas de raison. D'accord. Il faut être responsable. Il faut expliquer. Un des problèmes peut-être qui provient du nucléaire, c'est d'abord, il est né, comme vous le savez, essentiellement avec drames de Hiroshima et Nagasaki. Mais il faut répondre aux questions que se posent les gens. Trop souvent, les gens donnent les réponses que souhaitent entendre plutôt que la réponse à la question que les gens... des gens qui sont en face de lui. Donc pour moi, l'enjeu majeur du nucléaire, c'est que les gens sachent qu'il est légitime qu'ils posent des questions et qu'en face d'eux, il y a des gens qui acceptent d'y répondre avec certaines zones d'incertitude. On ne sait pas tout, c'est comme dans la science, mais on a quand même un corpus aujourd'hui de connaissances suffisamment robustes pour que, je crois, on puisse maîtriser cette énergie.
Très bien. On sait qu'en France, notre relation au nucléaire est différente de ce qui peut se passer dans les autres pays. Dans quelle mesure, selon vous, la spécificité de notre relation à l'énergie atomique, civile surtout, constitue-t-elle un pan à part entière de notre identité nationale, dont on a pas mal parlé tout au long de cette année?
Alors, c'est très simple, si vous voulez. L'histoire de la France avec le nucléaire, elle est singulière. Bon, d'abord, premièrement, comme vous le savez, c'est Becquerel, c'est les Curie, c'est Joliot qui ont marqué les grandes étapes. Donc, il y a une histoire, je dirais, scientifique, qui imprègne notre culture et notre histoire. Mais surtout, la France est, de mon point de vue, le pays qui a été celui qui a connu la situation le plus tôt, donc parmi toutes les autres nations, qu'elles-mêmes vont être amenées à connaître, c'est-à-dire l'insuffisance des combustibles fossiles. Il faut savoir que la France a connu son développement économique à partir, on va dire, de 1800, grosso modo, avec l'exploitation du charbon, qui était abondant dans notre pays, donc ce soit la Lorraine, que ce soit les bassins du sud de la France, etc. Et puis après, il y a eu le relais du pétrole avec l'Algérie, d'accord ? Et puis après, il y a eu le relais du gaz pour partir l'Algérie, pour partir en France avec l'Ac, etc. Et puis, aux alentours des années 1960, je crois que un certain nombre de hauts responsables, mais aussi le reste de la population française, a pris conscience que notre développement économique était totalement dépendant de l'énergie et que nous n'avions plus de ressources. Et là, il y a eu des choix politiques qui ont été faits et qui ont amené effectivement à ce qu'on développe un parc électronucléaire qui est aujourd'hui 58 réacteurs, qui couvre 80% de la production nationale d'électricité. Et qui a permis de compenser cette difficulté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, chacun d'entre nous bénéficie d'une électricité dont le prix est stable depuis 35 ans. Est-ce que vous savez que, par exemple, en Suède, le prix a été multiplié par plus de 300 fois? Donc, il est clair qu'il y a un bénéfice. Et comme, d'une certaine manière, je crois, la France a été assez exemplaire dans la gestion du nucléaire, y compris avec un dialogue. Il y a, par exemple, un haut comité pour la transparence et la sûreté de l'information nucléaire, à laquelle moi, je participe, et je vois, il y a les opposants. Bon, et c'est normal qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas. C'est contraignant. Et qui pourraient souhaiter plutôt simplement... vivre comme au bon temps du moulin où lorsqu'il y avait du vent, on travaillait 24 heures de suite et lorsqu'il n'y avait plus rien, on dormait sur les sacs de farine. Mais moi, ce dialogue, il est normal, il est légitime. Et ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas s'exonérer de cette énergie dans un pays comme la France et de beaucoup d'autres. Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres épisodes qui expliquent ça, c'est amusant. Par exemple, les Suédois, pendant 35 ans, ont dit on arrêtera le nucléaire. Et puis le jour où effectivement il y a eu des coupures électriques chez eux, il y avait des prix qui montaient, etc., ils sont revenus au nucléaire. Le renouvelable, mon point de vue, devrait couvrir, si on développe bien toutes les technologies, en moyenne mondialement 30%, 35%. Mais on n'arrivera jamais au-delà. Dans une société fortement urbanisée, fortement industrialisée, avec une démographie qui est de l'ordre de 9 milliards, vous ne couperez pas, de mon point de vue, au nucléaire.
Oui. Pour finir cet entretien, vous avez été directeur de l'ENS Sciences. Comment pourrions-nous approfondir les relations entre les anciens et les nouveaux élèves de l'ENS?
Oui, c'est un épisode qui a été très heureux de cette direction. Moi, je crois qu'il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire identifier quels sont les quelques anciens qui vous intéressent et puis les solliciter, les inviter eux-mêmes. C'est pour ça que ce soir, j'accepte bien volontiers de vous rencontrer. Ça fait partie de cette filiation qu'il faut entretenir pour essayer de vous donner, d'une certaine manière, une vision de ce qui est possible, notre aide, si vous avez besoin de notre aide pour vous orienter, vous guider, vous faciliter les choses. Voilà, pour moi, c'est votre responsabilité en tant qu'élève, d'une certaine manière, de venir nous chercher, dans la mesure où nous, on est déjà tellement pris, d'une certaine manière, par d'autres préoccupations, c'est un petit peu difficile, spontanément, de vous solliciter. Voilà, il faut vous créer des espaces dans lesquels on puisse se rencontrer de temps en temps.
Merci beaucoup.